Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Nous avons installé notre studio non pas à Paris mais dans les Hauts-de-France à l'occasion de notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Nous sommes au cœur d'une entreprise innovante qui regarde devant, qui a 5 ans d'avance. Cette ville, là où nous sommes, s'appelle Bruay-la-Buissière à côté de Béthune dans les Hauts-de-France avec plus de 56 000 salariés dans cette région dans le secteur de l'automobile. C'est la première région automobile de France, mais vous le savez aussi, cette industrie de la voiture est en pleine transformation. Le nord de la France, où nous sommes ce soir, figure parmi les pôles majeurs des voitures électriques en France et en Europe. Alors pour en parler, un patron qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans cette très belle entreprise. Ici, des tests d'essai pour les batteries à destination des constructeurs et des équipementiers. Bonsoir Jérôme Baudel.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien.
On est content d'être chez vous. Vous êtes le président de Critem 2A. Merci de nous accueillir ce soir pour cette France bouge sur Europe 1. Bonsoir Benjamin Lévesque.
Bonsoir Elisabeth.
On a fait un petit tour dans cette je sais pas, une usine. Hein, c'est...
Pour une fois, en fait, on est arrivé en avance.
Oui,
il
c'est
faut
vrai,
le dire.
On n'a pas eu de problème de voiture.
Voilà, là on est arrivé un petit peu en avance et on a eu la chance de visiter l'usine avant l'émission. Donc c'était très impressionnant. Il y avait des grosses machines. On ne sait pas forcément à quoi elles servent toutes. On va en parler. Tout à l'heure, il y avait même un crash test pour batterie avec un énorme bassin. Très impressionnant.
Ouais, c'est très impressionnant parce qu'ici, on teste les batteries électriques. On va tout vous expliquer pendant cette France bouge. Une pépite à suivre, une start-up née en 2019 de la trottinette électrique française, née dans les Hauts-de-France, évidemment. Bonsoir Fabrice Furlan.
Bonsoir.
Merci, j'allais dire de nous accueillir, mais oui, parce qu'on est chez vous ici. Vous êtes le fondateur et le CEO de l'entreprise Plume. Ça va, ça marche bien Plume? Vous avez apporté un gros échantillon. Hein.
Un gros échantillon et puis quelques composantes pour notamment autour de la batterie.
Allez-vous convaincre ce soir un coach exceptionnel dans cette France bouge ici dans les Hauts-de-France? Nous avons la joie de vous retrouver à lundi crescenzo. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Super forme.
Mais oui, vous avez très bonne mine. Président, évidemment, de CCI France. On est ravis de vous retrouver parmi nous. Vous avez un lien particulier avec les Hauts-de-France, Alain Di Crescenzo?
Alors, ça fait partie de mes premiers déplacements lorsque j'étais jeune entrepreneur, justement dans l'automobile, parce que Peugeot était installé ici. Et puis après, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Ourdin, qui est le président de la CCI des Hauts-de-France, qui est un ami de longue date.
Un ami de longue date, parce que vous l'avez tous compris, chers auditeurs, c'est une nouvelle étape dans notre grand tour de France avec les CCI. Et ce soir, c'est donc la CCI des Hauts-de-France qui est mise à l'honneur. On va retrouver Philippe Ourdin, président de la CCI des Hauts-de-France. Allez, bienvenue dans la France bouge. La France bouge, c'est l'émission des audacieux. Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1.
La France bouge. Il fait tourner la boîte.
Ouais, c'est un peu vous qui faites tourner la boîte ce soir, parce qu'on est chez vous, Jérôme Baudel. Vous êtes le président de Critem 2A. C'est vous qui nous accueillez ce soir, toute l'équipe d'Europe 1, une entreprise experte et reconnue d'abord dans le moteur thermique, faut pas l'oublier, dans le moteur thermique, et qui a pris le virage de l'électrique grâce à son centre d'essai d'homologation des batteries. C'est unique en Europe. On va rentrer dans le détail parce que c'est passionnant. Ce centre couvre la recherche, le développement du prototype jusqu'au test de conformité et enfin la sortie des lignes de fabrication des batteries. Donc on va démarrer avec vous, Jérôme Baudel, président de Critem 2A. Vous savez qu'il y a un rituel dans la France bouge. Ce rituel s'appelle le pitch. C'est-à-dire que pendant une minute, vous allez tenter de nous expliquer, de nous esquisser ce qu'est Critem 2A. Êtes-vous prêt?
Très prêt.
Allez, top chrono, on vous écoute.
Le Critem 2A, c'est un centre d'essai, un centre de recherche. C'est ici que vous verrez les batteries qui sortiront dans 3 ans, dans 5 ans, sur la route, dans vos voitures. Nous sommes nés, il y a 20 ans maintenant, autour du moteur thermique, autour de l'automobile de l'époque. Et nous avons, heureusement, en 2015, réussi à diversifier un peu notre activité sur les cellules, sur les modules. Premier test sur le stockage d'énergie électrique. Et 2020 est arrivé. 2020 pour l'automobile, ça va parler au monde de l'automobile, c'est la transition énergétique en accéléré. La fin d'un monde, Notre métier, c'est d'avoir un peu d'avance forcément en recherche-développement sur l'automobile, notre secteur principal. Et nous avons vécu cela de manière assez dure, puisque c'était la fin des essais en moteur thermique et en acoustique moteur thermique, le cœur de notre activité. Chiffre d'affaires divisé par deux, voire plus, il a fallu se reconstruire. Nous avons réinvesti 13 à 15 millions depuis 3 ans. Nous avons encore des projets pour à peu près autant dans l'année qui vient. Il a fallu recréer de nouveaux moyens d'essai et accompagner ce développement des gigafactories et de l'électromobilité.
Vous avez entendu le gong ? Ah non, on l'a pas entendu. Bon, voilà, la minute est terminée, mais en tout cas, on a compris. On a compris.
Il y avait encore des piles, en fait, pour ça.
Ou de la batterie.
Ou de la batterie.
Si on fait des super jeux de mots ce soir. Non, mais merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice du pitch, Jérôme Baudel, président de Critem 2A. Il y a plein de choses dans ce que vous nous avez dit, parce que cette entreprise, c'est une start-up de ce que j'entends dans une grande entreprise. L'entreprise a 23 ans, c'est ça?
23 ans, exactement.
Elle a 23 ans et depuis 10 ans, en à peine 10 ans, vous êtes allé sur ce que l'on appelle de l'électromobilité. C'est quoi l'électromobilité, Jérôme Baudel ?
L'électromobilité, ça va à la fois des trottinettes, on en parlera tout à l'heure, du vélo électrique, c'est mobilité douce. C'est aussi une transformation d'une motricité thermique principalement, qui va devenir électrique progressivement. Mmh. Alors contraint, forcé, voulu, pas voulu.
Vous, c'était un peu contraint. Hein.
Alors,
vous nous dites en 2020, on n'avait plus de chiffre d'affaires, il n'y avait plus rien.
On y est.
Donc il a fallu trouver des solutions. C'est pour ça que je dis que vous êtes un peu une start-up start-up dans l'ancien monde.
On était une belle entreprise de l'ancien monde qui tournait très bien et d'un seul coup on nous a cassé notre jouet. C'est un peu cela. Mmh. Et donc en 2020, il a fallu recréer une nouvelle société, à nouveau reprendre des risques.
Comment vous l'avez puisé cette énergie, cette force?
Alors d'abord, on ne la puise pas seul. On a une équipe autour de nous, une équipe de direction. Il y a eu un choix à faire, effectivement. On arrête la société ou on réinvestit, on reprend le risque et on retrouve un chemin. Donc on se retrouve à nouveau créateur d'entreprise, entrepreneur. C'est vraiment un métier. Et donc ensemble, on a réécrit une feuille de route. On a pris des risques. On a été accompagnés, les institutions financières, le conseil régional et puis les collectivités territoriales ici en local nous ont aidés, nous ont accompagnés et nous ont fait confiance. Un fonds d'investissement est venu aussi nous aider puisqu'on ne trouve pas 15 millions comme ça du jour au lendemain.
C'est ça, vous avez dit que vous avez investi en à peine 5 ans, entre 13 et 15 millions depuis 3 ans même. 3 ans.
Alors 15 millions depuis 3 ans et on a 3 projets à 15 millions chacun pour les 2 ans qui viennent. Donc vous voyez, il va falloir trouver de l'argent. Mais c'est le prix à payer pour réussir à accompagner aujourd'hui l'industrie automobile dans sa mutation.
Qui est en pleine mutation, vous avez dit le mot, Jérôme Baudel, une industrie en pleine mutation, ça signifie que vous travaillez aussi bien sur de la mobilité douce que sur l'aéronautique aussi, sur l'aérospatiale, sur toutes les formes de mobilité.
Alors, principalement automobile, mais bien sûr, tous les secteurs sont touchés par cette électromobilité, même la défense dans l'absolu. Donc, on va toucher tous ces secteurs. On avait commencé déjà depuis quelques années, depuis 10 ans, on avait voulu diversifier un peu nos activités. Ça représentait 15 à 20% de notre activité. On travaillait déjà pour l'automobile électrique avec des grands constructeurs français. Mais là, il a fallu recréer, former, recruter, développer des compétences, développer de nouveaux départements.
Ici, on a eu la chance d'arpenter les allées hein, de Critem 2A. On est dans un centre de test, un centre d'essai. Et à proximité, il y a ce qu'on appelle des gigafactories, c'est ça ? Voilà. Alors, expliquez-nous pour que l'auditeur, nos auditeurs d'Europe 1 puissent comprendre vraiment dans quel écosystème, parce que c'est un écosystème où nous sommes. Ici, dans les Hauts-de-France, on la surnomme pas la vallée de la batterie pour rien.
Alors une gigafactory, c'est ce qui va fabriquer des cellules, en fait des piles, si on veut bien comprendre, qui vont être assemblées pour former une batterie et être placées dans vos voitures demain. Une gigafactory, pour donner un exemple, la première gigafactory qui s'ouvre, c'est 50 000 cellules par jour.
Cellules, ça veut dire ?
Une pile, 50 000 piles qui vont être assemblées. Vous aurez
Et ces piles, elles vont, pardon de cette question, elles seront insérées dans des batteries, c'est ça ?
Les piles, elles vont être mises côte à côte, entre 100, 150 piles, cellules, côte à côte, qui vont... voilà, on a un bel exemple ici avec Plume.
Fabrice Furlan en a apporté une, au moins on la voit. Merci.
et donc c'est à peu près 100 à 150 piles qui vont être mises côte à côte pour former une batterie et stocker l'énergie dans le véhicule. Ces gigafactories vont fabriquer jusqu'à 50 000 piles par jour.
Mais vous dites gigafactory comme si tout le monde savait ce que c'était. Mais Alain, vous connaissez les gigafactories. Ça se puise, je crois que c'est né en 2014, c'est ça ?
Oui, c'est avec Tesla que c'est né. C'était la première usine qui faisait 1 million de mètres carrés. Et donc, c'était ça, la Gigafactory. C'était la plus grosse usine de production, donc de batteries.
Et on a importé ce modèle en France, dans les Hauts-de-France ?
Alors le premier à l'avoir fait, c'est une association donc entre Stellantis, Total et puis Daimler qui les a rejoints ensuite pour créer la première Gigafactory en France qui a été inaugurée et qui démarre actuellement. Quatre autres l'ont rejoint dans la région, toutes c'est dans bon. La région Hauts-de-France depuis ces dernières années. Donc ça en fait la première région de Gigafactory de France, bien sûr, mais 5 gigas, alors on peut dire que c'est beaucoup.
Moi ça me paraît colossal, mais...
Il y en a 20 à 30 actuellement en Europe, en projet. Donc c'est pas si énorme que ça. Et quand bien même tout cela arriverait, ça ne suffirait pas à couvrir les besoins. Donc on va encore voir arriver de nombreuses gigafactories en Europe et en France, je l'espère.
Donc pourquoi, quand vous dites à couvrir les besoins quels sont-ils aujourd'hui, Jérôme Baudel? Je rappelle que vous êtes le président de Critem 2A. Nous sommes ce soir dans votre entreprise, hein, dans les Hauts-de-France. C'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie.
Alors deux types de besoins. Un besoin d'abord capacitaire, en quantité. Il faut réussir à fournir chaque véhicule électrique avec sa batterie. Et il faut réussir à se substituer, si possible, avec une production européenne plutôt qu'une production qui viendrait d'Asie. Surtout si on veut décarboner la planète, n'oublions pas, c'est quand même l'objectif à la fin de la transition énergétique. Ensuite, il y a des besoins qui sont des besoins sur toute la chaîne de valeur de fabrication de la batterie. Donc la partie recherche-développement, les performances, la fiabilité des batteries. On a tous envie d'avoir une batterie qui nous emmène quelque part et qui nous ramène, si possible, qui puisse se recharger le plus vite possible. Voilà, donc nous contribuons à travers nos moyens d'essai à cette partie recherche-développement.
Surtout Benjamin, quand on parle de fabrication, Jérôme l'a dit là, à l'instant, il parle d'Asie, on pense forcément à la Chine.
Et oui, il y a selon un bureau d'études sud-coréen, sur les 10 entreprises qui produisent le plus de batteries dans le monde, la majorité sont asiatiques et chinoises plus particulièrement. En fait, les entreprises de l'empire du milieu concentrent 65% du secteur. On parle même de surcapacité industrielle de la puissance chinoise. Autrement dit, il y a certaines entreprises chinoises qui fabriquent plus que ce dont le pays a besoin. Elles font un surplus de batteries qui servent notamment à combler le marché européen.
Donc, heureusement, Critem 2A est là. La région des Hauts-de-France est là parce qu'on dit, à lundi crescendo, je rappelle que vous êtes le président de CCI France, on est bien au cœur de cette réindustrialisation qui vous tient tant à cœur, justement.
Oui, mais la région des Hauts-de-France est un exemple parce que c'était une région qui a été une des plus industrielles de France. Vous savez ce qui s'est passé après avec notamment toute l'industrie minière qu'on a pu connaître. Et donc, on a une recovery, comme on dit en anglais, ça renaît, cette région renaît industriellement et elle renaît à une vitesse extraordinaire. Il y a une grande volonté, bien sûr, des territoires et de l'équipe des Hauts-de-France. C'est-à-dire, tout le monde s'est uni pour faire renaître ce territoire.
Tout le monde s'est mis autour de la table. C'est-à-dire, on va faire renaître ce territoire.
On va faire renaître ce territoire avec une efficacité redoutable parce qu'aujourd'hui, 50% des emplois créés ou maintenus sont des emplois industriels. Et donc, on a à peu près 18%
ici dans les Hauts-de-France.
Ici dans les Hauts-de-France. Et c'est un exemple donc de renouveau industriel. Et puis, par ailleurs, c'est la stratégie. Vous savez que je suis un peu un fanat de la stratégie. C'est se positionner sur les bons créneaux. Et quand on voit qu'on prend le risque dans ce pays, quand même, d'aller sur le véhicule électrique, alors qu'au départ, on ne fait ni les moteurs, ni les batteries, c'est un risque majeur et on prévoit d'en produire 2 millions. Donc, si on n'a pas quelque part des actifs localisés chez nous, on prend un risque de souveraineté, de dépendance.
Et ça, donc, on l'a vu pendant le Covid sur d'autres sujets, ça suffit.
Sur les médicaments, sur les masques.
Voilà. Ouais. Et donc, grâce aux Hauts-de-France, donc on va se dérisquer au moins sur les batteries, c'est quelque chose d'important.
Oui,
et donc
sûr.
On doit absolument couvrir le besoin national, point numéro un, et bien sûr le besoin européen parce que le marché est grand et puis il faut prendre des parts de marché aussi à l'international.
Jérôme Baudel, vous êtes le président de Critem 2A. Vous nous disiez tout à l'heure hors antenne, mais je le dis aux auditeurs parce que ça m'a vraiment interpellé. Vous m'avez dit, nous, on a 5 ans d'avance sur nos clients. Sinon, on n'a pas le choix.
C'est l'objectif. On est là pour aider les constructeurs, les fabricants de batteries. On est là pour les accompagner. Il faut qu'on soit un petit peu en avance. Si on est derrière eux, on va pas les aider. Donc, il a fallu reconstruire cette compétence très vite. Il a fallu recruter, former. Et ça, c'est le vrai défi que nous avons.
Former, c'est des nouveaux métiers. Comment on fait ? D'abord, il faut les recruter, les former, et puis il faut les faire venir ici.
Alors, une des chances que l'on avait, c'est qu'on a été pionniers dans cette activité il y a 10 ans. On a créé les premiers moyens d'essai. Donc, on avait un embryon de compétences qui s'est formé, qui a eu le temps pour ça.
Moyens d'essai, c'est-à-dire des centres d'essai ?
Des cycleurs, en fait. C'est ce qui va permettre de tester une cellule, une pile.
D'accord.
Tester sa performance, son endurance, sa fiabilité. Donc, voilà 10 ans qu'on travaille dessus. On a des salariés qui sont compétents sur ce sujet. Il est plus facile d'agréger de nouveaux salariés qui vont se former au contact des autres que de partir de zéro. Donc on avait déjà une chance et on a été les premiers et les pionniers vraiment.
Mais quand on avance aussi vite, parce qu'Alain Di Crescenzo, vous le disiez tout à l'heure, quand ça va très très vite, on a pris un risque osé. Comment on recrute? Parce que vous dites, ils viennent et ils se forment auprès de ceux qui travaillent déjà, parce que c'est plus facile que de repartir à zéro. Mais comment vous les faites venir ici? Il y a toute cette question aussi de faire venir des talents ici, dans les Hauts-de-France.
Quand on n'est pas du Nord, on se dit que c'est difficile de les attirer, mais je vous assure, je ne vais pas vous refaire bienvenue chez les Ch'tis.
Mais si, voilà.
Non, on arrive à attirer d'abord parce qu'il y a de la haute technologie, parce que ce sont des technologies d'avenir qui sont perçues comme telles parmi les nouvelles générations. C'est aussi une vision du monde décarboné, une vision du monde où on ne pollue plus. C'est une vision qui touche les jeunes. Et je pense qu'on a une vraie attractivité aujourd'hui quand on travaille dans ce domaine.
Comment faites-vous concrètement?
Alors,
sais que c'est bienvenu chez les Ch'tis, tout ça, c'est super, comment faites-vous?
Alors d'abord, en local, c'est des partenariats importants avec tous les systèmes éducatifs locaux, avec les associations professionnelles, avec tous les acteurs qui peuvent nous amener des visites de jeunes. Il faut sensibiliser les jeunes, on se plaint qu'ils n'aillent pas vers l'industrie. Nous recevons des classes de collège et des IUT.
Au sein Crit'Em 2A, vous avez partie des sorties scolaires?
Exactement.
Je trouve ça génial.
Nous en recevons régulièrement.
C'est formidable. Alain Di Crescenzo, vous vouliez ajouter?
Oui, non, simplement ce que je veux dire, c'est que les Hauts-de-France, c'est une grande tradition aussi de formation. On a des écoles d'ingénieurs. La Chambre de commerce est très impliquée. C'est là-haut, par exemple, c'est notre marque de formation. Et donc, c'est un territoire de formation et de formation industrielle, point numéro un. Deuxièmement, je veux parler de la France. La France a une grande tradition de testeurs. Et donc, ça nous vient aussi des métiers de l'aéronautique et de l'espace, où on a un grand savoir-faire dans le test d'équipements embarqués. Et donc, on est un pays où on est très fort en équipement électronique, notamment de test. Et puis, en formation ici, on est particulièrement bien positionné.
Donc, si j'ai bien compris, Jérôme Baudel, vous êtes le patron de Crit'Em 2A. On est chez vous ce soir, puisque c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie, ce soir jusqu'à 21h sur Europe 1. L'objectif de tout cela, si on le dit clairement, c'est de battre tous les concurrents chinois. Non mais c'est vrai qu'ils font du dumping, qu'ils possèdent déjà 10 à 15 ans d'avance sur les matières premières aussi.
Alors sur les matières
premières... Si on dit les choses, c'est ça.
Oui, on va voir un autre défi qui est les évolutions et les nouvelles technologies. Les batteries d'aujourd'hui ne seront pas les batteries de demain. Et les
c'est pour ça que vous avez autant de machines là derrière
exactement,
nous.
Nous travaillons sur les générations qui arriveront sur la route dans un an, dans deux ans, dans trois ans.
Et pourquoi ce ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui si aujourd'hui elles fonctionnent bien?
La technologie va tellement vite qu'il faut déjà produire ce que l'on sait produire aujourd'hui pour fournir l'automobile et pouvoir équiper les véhicules. Les nouvelles technologies fourniront les voitures de demain.
Mais ce sera quoi la batterie de demain? Quand vous dites que ça va vite, quand vous dites qu'on réfléchit à celle dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, ce sera quoi comme batterie?
Alors d'abord des batteries plus sûres, plus performantes, qui nous donneront plus d'autonomie, qui seront moins lourdes, avec une densité énergétique qui sera plus forte. On parle de solid state, donc des batteries solides, qui seront beaucoup plus sûres, avec une bonne densité énergétique. On parle aussi de sodium, qui, elles, sont aussi encore plus sûres, à différentes destinations. En fait, les technologies vont avancer un petit peu tous azimuts, et chacune va trouver sa place.
C'est important qu'elles soient plus sûres, parce que tout à l'heure, quand on était avec vous, on a eu la chance de visiter les locaux de Crit'Em. C'est pas une usine, j'ai envie de dire usine, mais on n'est pas dans une usine, ni dans un atelier. C'est quoi? C'est un centre d'essai.
Centre d'essai, centre de recherche.
On a vu une salle, n'est-ce pas, Benjamin Lévesque? Une salle.
Avec un grand bassin.
Mais on le voit pas, le bassin.
Non.
Il y a tout un. Comment
dessus.
Ça s'appelle?
Un caillebotis.
En fait, c'est un grand grillage. Vous savez parfois on marche dessus dans la rue. En dessous, il y a le métro. Mais sauf qu'ici, il y a.
J'ai pas osé.
Non. mais ça, c'est fait pour. Vous avez dit, nous ici, on maltraite la batterie le plus possible.
Nous avons un département pour préparer l'homologation des batteries. Donc une batterie, quand vous allez rouler sur votre voiture, vous serez assis sur une batterie. Vous avez envie qu'elle soit sûre, qu'elle ne prenne pas feu, qu'elle n'explose pas. Pour cela, chaque batterie doit être homologuée.
Parce que la batterie, elle craint surtout le chaud.
Elle craint le chaud, elle craint
les températures extrêmes, mais surtout le chaud.
Le lithium, c'est 30 degrés, la température idéale. Donc, dès qu'on s'en éloigne, on perd un peu.
Donc, à 40 degrés en pleine canicule, faut faire attention avec sa voiture électrique.
40, ça va au-dessus de 60, ça commence à être difficile.
Et à moins 10, j'imagine que c'est pas très bon non plus.
Ça démarre plus difficilement, mais ça peut, voilà. Mais c'est
réchauffé. Donc, vous les testez comment? Donc, vous les maltraitez?
On va les maltraiter. On va faire des courts-circuits. On va les surchauffer. On va les surcharger plus vite. On fera une batterie de test qui rentre dans le cadre des normes d'homologation et de certification. Et il faut absolument que la batterie résiste, tout simplement. qu'elle ne prenne pas feu.
Sinon, et elle va dans le bassin, la petite piscine.
Si elle prend feu, il faut être sûr que ça ne va pas mettre le feu à notre bâtiment. Donc lui, on est obligé de se prémunir un petit peu de ces extrêmes. Et on a un bassin d'eau pour arrêter le feu de la batterie.
C'est extraordinaire, hein, Alain.
Oui, c'est super.
Et franchement, ça se passe ici en France. Moi, j'adore.
Et surtout, c'est clairement ce qui va nous donner des chances de compétitivité. Je rajouterai sur la batterie quand même, c'est qu'il faut qu'elle se recharge rapidement.
Parce que l'enjeu qu'on a
sur les véhicules, c'est le poids. Vous savez que on se bat contre le poids. Et si on peut avoir des batteries plus petites qui se rechargent plus rapidement, donc ça permet effectivement d'optimiser et à la fois la matière première. Vous en avez parlé, d'autre part, effectivement.
Et puis, ce n'est pas le propos de ce soir, et il faut qu'elle se recharge rapidement, et puis qu'on ait l'infrastructure qui va avec.
Chargeurs, il en faut une toute petite
pause. C'est encore un autre sujet, mais ça, ce n'est pas vous, n'est-ce pas, Jérôme Baudel?
On installe aussi des batteries et des panneaux solaires.
Oui, mais pas les infrastructures où on la branche et on attend 4h30. Non, pas encore. D'accord. Une fois que les homologations ont lieu, Jérôme Baudel, je rappelle que vous êtes le patron de Critem 2A, comment se développe le marché? C'est-à-dire que vos clients, ce sont les constructeurs, vous êtes un super équipementier, finalement?
On est un équipementier de rang 1 ou 2, selon les situations. Pour tester les batteries, on le testera pour les constructeurs automobiles. Pour tester
Vos clients, c'est Peugeot, Stellantis et tout ça?
Par exemple. Et de nombreux autres, quasiment tous aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et pour tester les cellules et le module, ce sera plutôt les fabricants de batteries. Donc les Gigafactory, tels que l'on les a en région.
Benjamin Lévesque, on assiste à un engouement des Français. C'est-à-dire que là, vous nous écoutez, je suis sûre que vous tendez l'oreille encore plus, parce que les Français et la mobilité électrique, c'est au cœur de nos préoccupations, Benjamin.
Et notamment les trottinettes électriques sont devenues un véritable moyen de transport quotidien pour les Français. Oui, les chiffres le montrent, en 2017, on vendait 100 000 trottinettes électriques contre 600 000 en 2020 et 900 000 en 2021. Donc c'est un vrai marché qui progresse. Et qui est estimé à 450 millions d'euros en France.
Ouais. Restez autour de la table de La France Bouge, ici dans les Hauts-de-France, parce que c'est notre grand tour de France avec les CCI. C'est la cinquième étape ce soir de la saison 2023-2024. On va rester dans l'électromobilité, ici à Bruay-la-Buissière, on est près de Béthune, dans cette entreprise Critem 2A. Pourquoi? Mais parce que on le voit là depuis le début de l'émission, c'est tout l'écosystème qui se mobilise pour permettre cette nouvelle filière de l'électromobilité. On doit être fier quand on travaille dans cet univers-là, Jérôme Baudel, je rappelle que vous êtes le président de Critem 2A, parce que vous êtes en train de penser à notre futur.
Alors, fier, je pense que les équipes qui travaillent ici sont fiers de leurs équipements et de leur entreprise, je l'espère en tout cas. Pour moi-même, je suis d'abord un entrepreneur. Fier, on n'a pas le temps de prendre le recul et de se poser cette question. On avance, on réfléchit à demain et on résout les problèmes les uns après les autres.
Mais en 2020, vous voyez que le moteur thermique, ça y est, c'est sa mort, là, ça y est, c'est fini. Vous ne vous attendiez pas à ce résultat-là aujourd'hui?
On savait qu'en 20 ans, la transition allait se faire, tôt ou tard. Qu'elle soit brutale et qu'en l'espace d'un an ou deux, on arrête instantanément tous les essais sous-traités par l'automobile dans les moteurs thermiques. Oui, ça c'est quelque chose qui est très violent, qui a été très mal vécu aussi par les équipes ici. Mais on a réécrit une feuille de route en quelques mois. Et on l'a suivi, et on a tenu, et heureusement qu'il y avait beaucoup d'acteurs dans la région institutionnelle.
Ouais, vous insistez dessus, c'est important de le rappeler, parce que tout seul, en fait, vous nous dites que ça n'aurait pas été possible.
Non. Alors ils y ont cru, on avait un écosystème, les Gigafactory s'annonçaient, on se rendait bien compte qu'on allait être au cœur de l'écosystème, au cœur de cette vallée de l'électrique, et que donc on avait quelque chose, une carte à jouer, et en plus avec un peu d'expérience, on avait déjà quelques moyens d'essai. Il s'agissait de les élargir très vite et de retrouver un seuil critique de moyens d'essai pour répondre aux attentes de la filière.
Dans ces Hauts-de-France qu'on surnomme la vallée de la batterie, Alain Di Crescenzo, je crois qu'il y a encore plein, il y a des projets sans arrêt que vous regardez attentivement au cœur de cette vallée de la batterie.
On a des projets de Gigafactory, vous en avez parlé. Et donc nous, ce qu'on attend, mais évidemment, c'est qu'il y ait une somme d'équipementiers, d'entreprises de services qui se développent autour de ce savoir-faire, parce que il faut cristalliser les savoir-faire. Et moi, je suis convaincu de la spécialisation compétitive des territoires. Dire que les territoires vont tout faire, donc les uns les autres être en compétition entre eux, ça marchera pas. Donc il faut qu'on soit courageux et qu'on dise, voilà, ces territoires ont un ADN industriel, un ADN a commencé le premier dans la
Pourquoi courageux, Alain Di Crescenzo? Pourquoi vous dites qu'il faut être courageux?
Il faut être courageux parce qu'on prend des risques. Parce que vous savez que le marché ne nous attend pas. Et malheureusement, quand on met un genou à terre, c'est très compliqué de redémarrer. Je parle d'un territoire. Les entreprises, c'est difficile, mais ça peut le faire. Mais sur un territoire, quand vous voyez des investissements donc qui sont en jeu. Donc se tromperait, ça serait très lourd. S'il n'y avait plus de gigafactory ou plus de besoin en batterie, on serait très embêté. D'où l'importance de s'assurer des matériaux qui vont faire en sorte de pouvoir construire les batteries, parce que si effectivement on avait un problème d'approvisionnement de matériaux rares, ben nos usines tourneraient à vide, ce qui serait un gros problème.
Aujourd'hui donc 4 gigafactories près de là où nous sommes, c'est ça ? 5 ?
5, oui.
Et il y en a combien en projet ?
Alors il y en a une qui a démarré et 4 qui sont en train de se créer.
Donc dans 10, 20, 30 ans, Jérôme Baudel, on se dira qu'on a pris le virage bien avant les autres ou pas ?
La région pourra être fière du résultat. Déjà maintenant, 5 gigafactory, c'est extraordinaire pour le secteur. C'est quand même une région qui a vécu plusieurs mutations. Le charbon transforme qui s'arrête, l'automobile qui le remplace, avec quelques grands sites industriels qui ont été...
Vous êtes une forme de laboratoire expérimental du futur. Faut le dire comme ça aussi.
La région peut-être.
La région,
comme
hein.
Ça, oui.
Ouais. On va poursuivre cette France bouge depuis les Hauts-de-France sur Europe 1 avec une pépite française, une nouvelle génération d'engins, des trottinettes électriques françaises, fidèles, durables, réparables, en circuit court.
Europe 1,
le talent de la France bouge.
Vous êtes un talent ce soir, Fabrice Surland, fondateur et CEO de l'entreprise, la start-up Plume. Fabrice, vous avez grandi dans les Hauts-de-France ?
Oui, je suis un ch'ti.
Ouais, vous êtes un ch'ti, ça va, c'est sympa de vivre ici ?
Ah, très bien, c'est une région de cœur.
Une région de cœur. Vous avez passé 20 ans dans une région de cœur aussi d'ici, chez Decathlon. Comment vous avez franchi le pas de l'entrepreneuriat ?
Alors effectivement, j'ai passé 20 ans dans une entreprise qui me passionne toujours, qui est Decathlon, une entreprise de sport. Et j'ai toujours été dans ces sujets de mobilité, depuis la vente. En fait, j'ai suivi un peu le circuit du produit depuis sa vente jusqu'à sa conception. Et évidemment, il y a après 20 ans, souvent quand on passe de l'âge de 40 ans, il y a des choses qui coulissent un peu. On se pose la question de son utilité.
On parle de crise de la quarantaine.
Exactement. Donc je l'ai vécu, je n'ai pas échappé.
Ça fait rire Alain Di Crescenzo. Vous l'avez vécu, vous ?
Oui, plusieurs fois.
Ah, bon.
Tous les 10 ans, j'ai ma crise.
Donc, vous montez des boîtes, vous avez des projets.
Tous les 10 ans.
Tous les 10 ans. Donc, vous arrivez les 40 ans, ça fait 20 ans que vous êtes chez Decathlon. Vous tournez un peu en rond, même si c'est toujours super, mais il y a une forme de confort. Et là, vous vous dites, j'ai envie de donner encore plus de sens, parce que c'est une belle entreprise, Decathlon, il y a du sens.
C'est une très belle entreprise, mais c'est une grosse machine qui nécessite du temps aussi à se transformer. Et moi, j'ai vécu les sujets de mobilité pendant toute cette carrière.
Parce que oui, une vraie carrière, vous avez eu un très beau parcours là-bas.
Exactement, et j'ai notamment été directeur de l'offre internationale pour l'une des marques internes de Coxello, donc sur l'église urbaine. Et ces sujets de mobilité, j'y ai longtemps vécu, sauf que je me sentais un peu au milieu du gué, sur lequel on faisait des engins à usage décarboné, sur lequel effectivement les premiers marchés, il faut le savoir, le premier marché de la micro-mobilité est en France, et puis en Europe, et on faisait fabriquer des produits en Chine.
Ils venaient d'Asie, donc ça, c'était plus possible.
Plus possible, il y a une vraie volonté, mais l'inertie que prend de transformer une industrie venant de Chine pour le remettre en Europe sur une entreprise existante est trop longue. Passé 40 ans, je n'avais pas ce temps ni cette patience. Donc, c'est là que j'ai décidé de lancer Plume.
Mais comment c'est l'idée géniale. Vous allez nous la raconter. Vous allez pitcher Plume et après, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes prêts ?
Je suis.
Allez, Plume, c'est quoi ? Vous avez une minute, on vous écoute.
Alors tout d'abord, Plume s'inscrit dans les villes de demain, c'est-à-dire où l'enjeu de la mobilité est important. Donc aujourd'hui, Plume, c'est quoi ? C'est une marque industrielle qui apporte une nouvelle génération d'engins tels qu'on l'expose aujourd'hui. C'est 82% de fait en France, qui nous vaut d'être origine France garantie. C'est une industrie où le savoir-faire est propriétaire, c'est une industrie qui est unique, qui n'existe pas en France ni même en Europe. C'est ce qui nous vaut d'être en avance sur le marché. On parlait d'avance tout à l'heure, nous on a 3 ans d'avance. C'est du circuit court, vous savez, ce fameux circuit court qu'on connaît habituellement sur notre alimentation. Bah, nous l'avons fait. 3 de nos 4 partenaires industriels sont dans la région. Donc je les nomme. Ici, pas très loin, l'électronique est faite à Béthune, chez FH Energy System et chez DPE Production à Courrières. La partie châssis et assemblage est faite à Roubaix. Et la partie injection plastique est faite aussi à côté de Lille. Et la batterie est assemblée à Paris. Donc 50 km autour de nos bureaux lillois. C'est 10 collaborateurs en interne, 40 collaborateurs autour du projet durant ces 3 ans. Et c'est une commercialisation qu'on appelle Omnicanal, donc depuis notre site web, mais surtout avec des revendeurs spécialistes qui tissent le territoire national.
Merci pour votre pitch, Fabrice Surland, fondateur et CEO de Plume. On va un peu jouer, non, Benjamin ?
Vous voulez vraiment que j'essaye la trottinette ?
Ben, il a apporté, vous en avez envie, vous pouvez. Vous avez apporté la très belle trottinette Plume, Fabrice Surland, que donc vous avez créée, fondée. Il y a 88% des composants, c'est ça ?
82%.
82% des composants viennent d'ici, des Hauts-de-France ?
Alors 82% viennent de France, dont 80% des Hauts-de-France. Seule la batterie est assemblée à Ivry, chez notre partenaire Pinko, à côté de Paris.
Benjamin Test, commencez Benjamin.
Il faudrait que je l'allume tout d'abord.
Il faut l'allumer.
On va l'allumer. Elle est, d'abord, en plus, elle est esthétique, là, celle que vous nous avez apportée ce soir. Elle est rouge, elle est jaune et noire. Qu'est-ce que vous avez pensé du pitch à l'Indy Crescenzo? Je rappelle que vous êtes le président de CCI France.
Je peux parler d'abord de la trottinette parce que je l'ai essayé, moi, au salon du Made in France.
Mais oui, parce qu'en fait, vous connaissez, vous êtes rencontrés, vous connaissez.
Je suis même pas tombé, donc c'est super.
Dans la superbe usine éphémère que vous aviez mis en place au salon du Made
in France. On m'a présenté le produit, je lui ai dit mais maintenant je veux l'essayer, quoi. Donc j'ai fait ce que va essayer de faire le collègue là.
Benjamin.
Et beaucoup de difficultés Benjamin, hein, mais bon, voilà, mais c'est pas grave.
Benjamin, donc, c'est pas grave, hein.
Ça manque un peu de place.
D'accord, on essaiera. Alors après l'émission, promis, on va le filmer, on va le mettre sur les réseaux. Et vous avez eu un coup de cœur à l'Indy Crescenzo pour cette entreprise, je crois.
J'ai eu un coup de cœur parce que c'est vraiment une envie de faire différent. Déjà l'entrepreneur avec ce parcours chez Decathlon, de dire bon, mais j'ai envie de changer un peu le monde, changer les choses, et puis je m'attaque à un marché mondial, parce que c'est ça le sujet. Et après, il a une véritable vision, en dehors de se dire que je vais attaquer ce marché mondial, c'est la micromobilité, vision numéro une. Deuxièmement, c'est le faire en territoire, ce que tu appelles les circuits courts, et ça c'est une autre vision, en impliquant un écosystème, de se dire il faut que je sois reconnu, Origine France
garantie,
et donc ça c'est aussi important, ça veut dire que ce label... Moi, je fais du Made in France particulier 82%, mais je veux que tout le monde le sache. Et puis après, c'est l'ambition que tu as. Et puis j'ai vu les équipes. Et je veux dire, dans cette entreprise, on a la banane, on a envie d'avancer. Et donc, je dis que quand je regarde tout ça, avec une stratégie sur laquelle je reviendrai peut-être, il y a tous les ingrédients de la réussite. Voilà. Donc, c'est une entreprise qu'on admire, c'est une entreprise qu'on a envie d'aider, et c'est une entreprise surtout qu'on a envie de suivre. Donc, c'est ce qu'on a échangé tous les deux tout à l'heure.
Donc, on est au cœur de ce qui nous intéresse ce soir avec Plume. C'est une trottinette électrique, donc avec une batterie.
Tout à fait, une batterie que j'ai amenée ici. Donc une batterie qui a quand même une particularité parce que vous l'avez vu, hein, notre trottinette électrique n'est pas juste une trottinette qu'on fabrique ici dans les Hauts-de-France. C'est une nouvelle génération d'engins qui est portée par des besoins de sécurité. Donc on a amené de l'éclairage qu'on appelle l'hypervisibilité parce qu'aujourd'hui les engins tels que la trottinette électrique cohabitent avec d'autres engins. Donc quand vous êtes sur une piste cyclable, vous êtes avec des vélos, d'autres moyens de déplacement. Quand il n'y a pas de piste cyclable, vous êtes avec des voitures, des scooters. Et donc c'est toujours l'usager le plus faible qui est un peu victime de tout ça. Et donc, nous, ça se traduit par l'hypervisibilité, ce qui est sur notre engin.
Il y a des lumières partout, ça clignote de partout. Et puis, elle a un poids plume, si je puis dire.
Alors, c'est surtout la légèreté des déplacements.
C'est pour ça que vous l'avez appelé plume ?
Exactement, oui. Et donc, l'autre besoin important aussi, c'est d'avoir un engin, et ça, on l'a mesuré, un engin qui soit durable, qui soit fiable. Et donc, on l'a pensé aussi durable. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de châssis tubulaire avec une particularité, c'est que les trottinettes telles qu'on connaît aujourd'hui, c'est un seul tube de direction. Une seule colonne. Nous, on a fait une double fourche avec un double système de verrouillage qui est d'ailleurs breveté. C'est un peu comme les motos. Vous avez une double fourche avant, ce qui participe énormément à la robustesse de notre engin, ce qui nous permet de garantir le châssis 5 ans, ce qui est assez unique.
Vous en pensez quoi ? Quel regard portez-vous, Jérôme Baudel ? Vous êtes le président de Critem 2A. On est dans votre entreprise ce soir sur Europe 1 pour notre grand tour de France avec les CCI.
Alors nous travaillons pour les mobilités douces.
Mais oui, c'est pour ça. Mais oui.
Décathlon,
parce que mobilité douce, pas que mobilité douce, parce qu'on a visité une petite salle pour les dédiée aux Formule 1 aussi chez vous.
Ah oui, on fait un peu tout, c'est le grand écart. Mais la mobilité est transverse, elle traverse tous les secteurs, toutes les tailles, ça va de la Formule 1 au véhicule, aux trottinettes, aux vélos électriques, ça va aussi dans l'aérospatiale, dans la défense, tous les secteurs sont aujourd'hui touchés par cette transition énergétique.
Donc la batterie, vous, elle vient d'où cette batterie
Donc cette batterie vient de Paris, donc mon partenaire Pinko. Donc elle a la particularité de pas être soudée, parce que ce qu'il faut savoir sur le marché, c'est que toutes les batteries sont soudées, donc forcément c'est compliqué à réparer. Souvent le marché invite à
racheter une trottinette.
Exactement, une batterie.
Là, ouais.
Donc nous elle est démontable, c'est simplement boulonné, sur lequel on peut changer l'ensemble des cellules que Jérôme précise tout à l'heure, donc on les voit ici. Et en fait ce qui fait qu'on a une batterie qui est quasiment réparable à l'infini.
C'est extraordinaire. Moi, je valide à 100%. Je vous vois sourire. Alain, dit Crescenzo.
Oui, moi, je valide aussi. C'est extraordinaire. Mais il n'a pas dit quelque chose. Je peux lui poser une question?
Mais évidemment.
Alors, parce qu'on a beaucoup parlé du Made in France. Ça coûte cher. C'est plus cher, moins cher.
Ah oui, bah combien elle coûte?
Voilà, le prix et après l'argumentaire. Vas-y, c'est moi qui ai posé les questions.
Oui, merci Alain. Donc on a un modèle qui s'appelle la plume allure qui est décliné en deux niveaux d'autonomie. Donc l'autonomie standard qui est à peu près 40 km et la grande autonomie qui monte à 70. Donc 1 299 € pour la version standard, 1 649 pour la version grande autonomie. Et encore une fois avec un produit qui est pensé durable, sécuritaire, qui peut avoir plusieurs vies, parce que le fait de le penser durable implique aussi qu'il soit réparable.
Ah oui, mais ça change tout avec une batterie qui se détache.
Mais pas que la batterie, c'est-à-dire qu'on a pensé l'engin pour qu'il soit totalement démontable, même par l'usager. Vous voyez, je vous ai apporté ce petit composant.
Oui.
Bah, c'est les parties d'éclairage qui sont à l'avant. C'est-à-dire que la partie avant se démonte, c'est un sandwich, et donc on est capable de changer ce petit composant. On a à peu près 120 références.
Et c'est chez vous que ça se passe. Elle est vendue où, Plume ?
Alors, elle est vendue depuis notre site internet, mais surtout, on est en train de constituer notre réseau de revendeurs. Donc, on a déjà ce qu'on appelle les grands comptes, donc Fnac Darty, Boulanger, Decathlon, Intersport, et aussi des revendeurs spécialistes, donc des vendeurs, des magasins de vente de vélos, de micromobilité.
Et ce qui m'a plu, moi, c'est qu'on peut aussi la louer.
Effectivement.
Et ça, c'est vachement bien.
Oui. Alors, on réinvente pas l'eau chaude, puisque ce qui est important,
mais
moi
oui,
j'aime bien appliquer une règle qui s'appelle le BSP, le bon sens paysan. Et donc l'automobile est aussi...
C'est dans les Hauts-de-France, ça, cette région de France.
Moi, je sais pas, je l'ai repris, hein, ça vient pas de moi. Mais je me l'applique plutôt bien. Et donc ce bon sens aussi invite à reprendre des règles qui existent. On parle de location longue durée, on le connaît dans l'automobile aujourd'hui. Bah, ça permet de rendre aussi accessible des voitures, des engins. Bah, nous, on fait la même chose. Et surtout, ça permet d'inclure ce qu'on appelle une expérience de mobilité. C'est-à-dire que nous, en fait, pour à peine 50 €, vous pouvez accéder à cet engin, mais pas juste l'engin. C'est-à-dire que vous avez aussi l'environnement de la réparation, mais vous avez aussi les assurances obligatoires, parce que c'est des engins de mobilité qui sont soumis à une obligation d'assurance. Et bah, notre formule location, c'est inclus.
Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes avec nous ce soir dans La France Bouge. Nous sommes à Bruyères-la-Buissière, c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Vous êtes en pleine levée de fonds, je crois. Vous êtes en train de...
On est en pleine levée de fonds.
Vous aimeriez lever combien ?
Alors, on souhaite lever 2,4 millions, et ce qu'on appelle en equity, donc pur investisseur, donc 1,4 million. Et en fait, il nous reste encore 1 million à lever.
Europe 1, La France Bouge.
Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France. D'ailleurs, nous bougeons, hein, c'est ça Benjamin Lévesque.
On est survolté ce soir.
Ce soir, on bouge, on est survolté. Pourquoi ? Parce que c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Cinquième étape pour cette saison 2023-2024. Nous sommes à Bruyères-la-Buissière dans les Hauts-de-France. On met à l'honneur ce soir la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France au sein de la vallée de la batterie. La vallée de la batterie, pour en parler, on est avec Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Ça vous tient à cœur, cette vallée de la batterie ?
Oui, ça me tient à cœur parce que c'est dans la mobilité moderne et la mobilité de demain. Si on n'a pas de batterie, on est quasiment mort, quoi. Mmh. Parce que vous savez qu'on ne fabrique pas les moteurs électriques. Donc, le minimum, c'est la batterie. Et donc, la batterie est venue se substituer à la création de valeur du moteur à explosion. Et donc, c'est du moteur thermique. Donc, c'est très important d'être positionné là-dessus, à la fois pour les besoins nationaux qui vont aller crescendo, puisqu'on vise 2 millions de véhicules électriques à très court terme. Et puis, pour les besoins aussi internationaux, parce qu'on va être des exportateurs et des leaders sur le marché. D'ailleurs, les entreprises qui sont là le démontrent.
Et ces entreprises, pour en parler, nous sommes avec Jérôme Baudel qui nous accueille ici dans cet atelier. Ce centre d'essai. J'ai envie de dire que c'est un atelier ou une usine depuis le début, mais c'est un centre d'essai de batterie. En fait, ce sont des nouveaux métiers parce que figurez-vous qu'en 2020, c'était que des moteurs thermiques. On a vu un vestige de votre moteur thermique au fond d'une salle là tout à l'heure en nous promenant au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, c'est la batterie qui est à l'honneur. Il faut avoir un temps d'avance pour pouvoir répondre aux besoins des constructeurs le plus rapidement possible et être les premiers ici dans les Hauts-de-France.
Et ce temps d'avance, vous ne l'avez que si vous avez une recherche-développement qui est importante au sein de la structure. Aujourd'hui, c'est quasiment 20% du chiffre d'affaires tous les ans qui est réinvesti en recherche-développement. Ça veut dire des thèses, un département recherche-développement, des projets collaboratifs avec des grands constructeurs, avec des labos, pour anticiper à la fois la méthodologie, les normes, mais aussi développer les nouveaux produits. Donc oui, la recherche-développement, c'est la clé et le territoire pour ça nous aide beaucoup. La région, l'Europe, les collectivités territoriales nous aident et financent une partie de notre recherche-développement et c'est ça qui nous permet d'avoir un temps d'avance.
Et on le voit ce soir, c'est une réussite. On le voit aussi avec d'autres entrepreneurs ici dans les Hauts-de-France, avec vous Fabrice Furlan, fondateur et CEO de Plume. Plume, c'est quoi ? C'est une trottinette avec 82% de matériaux français, ce qui est une prouesse, ce qui fait qu'elle a reçu la certification Origine France Garantie et elle a un prix, Alain Di Crescenzo. Il peut paraître élevé, mais pas tant que ça.
Alors, elle a un prix, parce que la première question que je veux vraiment casser la question du prix, parce que...
On l'a déjà dit, mais il y tient, donc on refait.
C'est le coût total d'acquisition qui est important. C'est-à-dire, in fine, sur la durée de l'usage, combien ça coûte? Et donc j'ai posé les prix, vous avez compris, entre 1300 et 1600 euros, je me trompe pas. Et donc, on regarde une trottinette chinoise. Moi, j'ai rien contre une trottinette chinoise, c'est à peu près 30% moins cher. Par contre, la durée de vie, elle est trois fois supérieure. Donc, ça veut dire que, quelque part, quand j'achète du Made in France, et notamment Plume, j'ai globalement à peu près ça me coûte 2,5 fois moins cher in fine, donc par rapport à une trottinette, je dirais, qui vient d'Asie. Donc on a tout intérêt à faire travailler nos entreprises, à faire travailler nos équipes et surtout avoir des biens durables. En plus, il est durable, il est démontable.
Avec un choix assumé de réparabilité, ça aussi c'est important.
Mais la réparabilité aujourd'hui, c'est ce qui fait que quelque part, on va économiser nos ressources.
Alors comment il fait ce soir, Fabrice Furlan, pour lever des fonds? Il a besoin de plus d'1,5 million d'euros, Alain Di Crescenzo.
Alors premièrement, je vais le rassurer sur un point. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète.
Ah bon?
Et globalement, je ne suis pas seul à le dire, il suffit de regarder les flux financiers, il n'y a jamais eu autant. Donc maintenant, si vous voulez, il faut arriver à capter cet argent. Bon, le montant qu'il demande n'est pas un montant exorbitant. Et donc pour ça, il faut avoir un pitch. Donc j'ai entendu le pitch de l'entreprise, mais il faut regarder le pitch économique, c'est-à-dire les retours sur investissement, qu'est-ce que ça rapporte à l'investisseur, donc sur la croissance, sur l'international, etc. Et deuxièmement, il faut faire des roadshows. Et sur des roadshows...
Donc c'est la notoriété dont vous parlez?
Non, les roadshows, c'est bon, le pitch, c'est le matériel, c'est-à-dire il faut la matière première, donc sachant qu'il a déjà produit et déjà vendu toute sa pré-production, donc c'est déjà un point super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le pitch étant validé, et ben après, il faut lui présenter des investisseurs. Deux pistes. Les investisseurs locaux, et je regarde mon ami Philippe Ourdet en face de moi.
Qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, le président de la CCI des Hauts-de-France.
Un écosystème d'investisseurs en capital, capital risque, capital développement très important au niveau de la région. Et si ça suffit pas, ce que j'ai proposé à notre collègue ici présent, c'est de lui présenter les investisseurs que je connais, puisque j'ai été coté pendant à peu près 25 ans. Avant, j'ai fait appel au capital risque et tout ce monde, on le connaît. Et donc, je me fais fort de lui présenter des investisseurs.
Parce qu'Alain Di Crescenzo est un entrepreneur avant d'être président de la CCI.
Et donc, je parie aujourd'hui, ce soir devant vous, qu'il trouvera son argent rapidement.
Vous avez des contacts, j'imagine, Alain Di Crescenzo, que vous pourriez partager évidemment avec Fabrice.
Bien sûr, des contacts d'investisseurs, j'en ai à peu près partout en France, un peu moins en Hauts-de-France parce que je suis pas le local de l'étape, mais voilà, je connais à peu près une cinquantaine d'investisseurs, donc on va trouver.
Donc vous allez échanger les adresses et les contacts.
Et surtout, on va trouver parce que le projet est beau.
Mais oui.
Il est beau et relutif, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent, et pour l'entreprise, et pour les collaborateurs, et pour les clients. Et pour les investisseurs.
Benjamin, tous les constructeurs automobiles aujourd'hui ont leur gamme de voitures électriques, j'ai l'impression, mais pour les deux roues, c'est encore un petit peu hésitant.
Oui, c'est vrai que pour les voitures, chaque constructeur propose un catalogue 100% électrique. Ça a commencé avec la Renault Zoé, il y a la gamme Alpine. Pareil chez les constructeurs étrangers, l'iconique Fiat 500, par exemple, est disponible en version électrique. Même chose chez Ford, Volkswagen, Mercedes, etc. Et côté deux roues, en revanche, c'est vrai, on peut dire que les constructeurs français sont à la traîne. Seul Peugeot a sorti un scooter version électrique qui s'appelle l'e-Street Zone.
Comment vous expliquez-vous, les experts, Jérôme Baudel, patron de Critem 2A, ce soir sur Europe 1, comment vous expliquez que les scooters électriques sont encore un petit peu à la traîne? C'est un problème de batterie?
Alors, je pense que Patrick Furlan,
Fabrice Furlan, je ne sais pas celui qui pourra me répondre le mieux.
Pourra vous répondre mieux, je pense. Mais après, la concurrence asiatique est un vrai sujet.
Vous dites concurrence, c'est le prix alors.
Il faut trouver un marché de niche. Il faut trouver un usage bien particulier, un mode de commercialisation bien particulier. Je pense que Plume a des atouts pour ça, mais c'est pas si facile à trouver.
Donc c'est pour ça que ça patine pour le scooter électrique, Fabrice Furlan.
Alors je connais moins le marché du scooter électrique.
Non, mais comme vous, c'est la trottinette, je me dis.
Oui, la vraie micromobilité qui se déploie fortement, évidemment, c'est le vélo assistance électrique et la trottinette électrique. Le scooter électrique vit une transition qui est importante du thermique vers l'électrique. Et puis, il y a des sujets aussi réglementaires. On a l'exemple de Paris, où il y a un changement là, c'est même pas un sujet réglementaire au niveau national, mais c'est plutôt local au niveau du pays, où Paris a interdit les scooters thermiques, et impose aussi des taxes.
Donc, dès qu'il y a des taxes, dès qu'il y a une réglementation qui s'impose, il y a des startups et des entrepreneurs qui arrivent sur le marché, même si ça complexifie, mais ils proposent des solutions. Vous nous avez dit tout à l'heure, Fabrice Furlan, 82% des matériaux sont français. Comment trouver, en France, trouver des industries industriels qui fabriquent les composants manquants?
Alors, c'est pas simple, surtout quand on arrive aussi avec un sujet qui est pas connu en France. Encore une fois, 100% de ce produit est fait en Chine aujourd'hui, donc on est les premiers. Donc convaincre les industriels, c'est déjà un vrai défi. Et aujourd'hui, donc on a su le faire. On a des industriels qui sont aussi des vrais entrepreneurs, mais aussi des commerçants, donc qui comprennent les enjeux qui sont nationaux, les enjeux des villes, mais aussi les enjeux de ce type de mobilité. Et donc ils ont compris la trajectoire, ils savent que c'est des projets d'avenir, ils sont inscrits là-dedans, ils nous ont accompagnés. Mmh. Et donc on a la chance aussi dans cette région des Hauts-de-France. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la première région d'industrie automobile. Donc en fait, cette trottinette n'est pas juste une trottinette qui apporte une nouveauté, une nouvelle génération, c'est une trottinette qui reprend les codes industriels de l'automobile. Donc toute la traçabilité, elle est aussi de cette expertise-là. On a même fait sur cet engin une traçabilité qui est inscrite dans ce qu'on appelle un carnet de vie digital. C'est-à-dire que depuis la production jusqu'à sa vente, sa réparabilité, c'est suivi digitalement.
C'est son carnet de santé en gros.
Mais plus qu'un carnet de santé, on a fait aussi la carte grise, c'est-à-dire que c'est un titre de propriété qui est blockchainisé, et sur lequel on parlait de valeur tout à l'heure, où c'est 2 à 3 fois moins cher par rapport à la durée de vie de l'engin. Mais cet engin, du fait qu'il soit hyper réparable, mais il peut avoir une deuxième vie, une troisième vie sur le marché.
Il peut passer de propriétaire en propriétaire. Exactement. Il aura toute l'historique de la durée de vie, de la vie de la trottinette plume. Être ici dans les Hauts-de-France, c'est aussi découvrir, on l'a vu, donc l'écosystème des entreprises. Alors comment la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France les accompagne? Pour en parler, on est ravis de vous retrouver, Philippe Ourdin. Vous êtes le président de la CCI des Hauts-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
La CCI des Hauts-de-France qui se bat au quotidien pour attirer les entreprises du secteur de l'énergie à s'installer ici dans les Hauts-de-France. Est-ce que c'est facile de faire venir des entreprises? Vous les accompagnez aussi, ces gigafactories?
Oui, enfin, on se bat, on ne se bat pas seul.
Vous y tenez, hein, c'est comme... Non, mais vous avez raison de le dire, comme Jérôme Baudel nous dit depuis le début de l'émission, vous n'êtes pas tout seul.
Non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans une région formidable, je dis. Formidable parce qu'il y a une effervescence, une très grande effervescence autour de cette vallée de la batterie. Tous les acteurs sont réunis. Alors, vous avez les chefs d'entreprise, vous en avez deux exemples formidables, mais il y en a bien d'autres. Vous avez les acteurs territoriaux, vous avez les acteurs chambres de commerce, vous avez le monde économique, vous avez les chercheurs. Tout le monde travaille ensemble, et tout le monde, on chasse en meute, comme on dit. On va ensemble voir les acteurs, leur prouver qu'ils ont raison. On crée aussi un écosystème. L'écosystème, par exemple, on parle de toutes ces entreprises. Est-ce qu'on parle de la logistique autour de ces entreprises? Les gigafactories ne peuvent pas arriver s'il n'y a pas un système logistique et portuaire formidable.
Donc vous avez mis en place, vous l'avez créé, comment l'avez-vous créé, Philippe Ourdin, enfin vous et d'autres?
Ben, on le crée d'abord en y croyant, d'abord en étant passionné de notre région, profitant aussi de notre emplacement, et puis en travaillant de manière holistique. Enfin, on travaille sur l'ensemble du dossier, la formation.
Mais oui, parce que pour ces gigafactories, à Dunkerque par exemple, il va falloir trouver des ingénieurs, des techniciens, tout ça c'est des nouveaux métiers.
Justement, on monte un centre de formation, la chambre de commerce monte un centre de formation à Gravelines, qui est dans la banlieue de Dunkerque, hein, directement près de la centrale nucléaire, pour former des techniciens de maintenance. Qui pourront travailler dans des gigafactories. Nous avons une formation, nous formons 40 000 personnes par an.
Donc mais elles sont d'ici ou ils viennent spécifiquement ici?
Ils sont en partie d'ici et ils viennent bien entendu, puisque nous avons des formations diplômantes, ils viennent aussi. Le but c'est de les garder aussi.
Parce que... j'ai vu qu'il y avait une école d'ingénieurs en génie électrique qui a ouvert ses portes là, à Béthune en mois de septembre. Donc ce qui prouve qu'il y a toute cette dynamique qui est
toute
en train de se mettre.
Toute cette effervescence.
Oui, alors, je m'interrogeais sur le logement. Quand on fait venir des personnes, et parfois c'est des familles, comment est-ce que vous avez aussi, vous et la CCI, je sais que parfois les CCI accompagnent pour faire venir des entrepreneurs, des familles entières. Ensuite, cette histoire de logement qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout.
Alors ça le logement, c'est pas forcément dans nos missions, mais quoi qu'il en soit, samedi matin, j'étais à Dunkerque, par exemple, pour aller vérifier avec des acteurs locaux le nombre de logements qui sont en train d'être créés. 15 à 20 000 personnes vont devoir être recrutées sur Dunkerque dans les 5 ans. 15
oui,
à 20 000 personnes.
Pour y répondre.
Donc aujourd'hui, nous n'avons ni les formations, ni les logements. C'est un véritable défi territorial. Et c'est pour ça que je vous parle d'effervescence. Non seulement il faut amener les entreprises, mais en plus, il faut leur amener un écosystème qui leur permettra de se développer.
Et dans cet écosystème, il y a les logements, il y a aussi le métier pour le conjoint. Tout ça, ce sont des éléments importants, là, dit Crescenzo.
Oui, alors,
président de CCI France.
Un exemple pas très loin d'ici, c'est le Lot. Mmh. Donc, dans le Lot, par exemple, on a développé une application qui permet de, lorsque une personne du couple a trouvé du travail dans le Lot, de trouver du travail pour le conjoint ou la conjointe. Donc, on a développé cette application. Et après, vous parlez du logement, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Mmh. Je prends un autre exemple, puisque tu as cité l'exemple des Hauts-de-France, je voudrais parler de la Vendée.
Ouais.
Le plus gros frein au développement économique de la Vendée, c'est le logement. On ne sait pas loger les futurs collaborateurs. Vous savez qu'il y a un vrai sujet national sur le logement. On a divisé par 3 la production de logements. Il faut absolument qu'on trouve une situation, une solution pour faire en sorte que nos collaborateurs puissent venir travailler et assurer la mobilité transrégionale.
Alors, est-ce que la CCI, le réseau des chambres de commerce et d'industrie, peuvent jouer un rôle là-dedans, même si vous l'avez dit, hein, Philippe Ourdin, c'est un peu éloigné de vos missions habituelles, mais avez-vous un rôle là-dedans?
Nous, si vous voulez, on a un rôle, si vous voulez, par rapport à l'État, de faire remonter les préoccupations du terrain.
Bien sûr.
On a ce rôle de factorisation des besoins, et donc un des plus gros besoins que nous ayons, j'étais avec le président de la Fédération de la Promotion Immobilière, avec le président du bâtiment, il n'y a pas si longtemps, nous avons échangé, la Fédération du bâtiment, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Vous savez que c'est à l'ordre du jour gouvernemental, il faut maintenant avancer, accélérer sur le sujet.
Jérôme Baudel, je vous vois un petit peu sourire quand on parlait de logement. Ils logent où, vous, vos salariés? Ils sont d'ici? Vous les en avez fait venir?
On essaie de recruter local, ce qui permet déjà d'éviter un turnover trop important. Mmh. C'est pas le tout de former des gens.
Il faut éviter qu'ils
s'en aillent. Mais oui, ça va être un vrai défi, pas que celui-là. Il y a effectivement le logement, il y a aussi le transport. 15 000 personnes qui se déplacent sur le Dunkerquois, bon courage. Mmh. Il va falloir étudier les routes, aussi la mobilité douce, parce qu'il n'y a pas que les voitures.
On aura la trottinette plume.
Pour ce... Ça fait beaucoup de trottinettes.
Vous avez dit, Philippe Ourdin.
C'est-à-dire, c'est un peu travailler sur un ensemble.
Mais c'est un hub, en fait. Donc, quand je vous entends parler, voilà. C'est un hub. Le village de la batterie, c'est la vallée de la batterie, c'est une forme de hub. Vous avez mis en place, je crois, aussi une plateforme pour trouver du travail, pour développer son business, son réseau au sein même de la Chambre de commerce et d'industrie de France.
Tout à fait. Avec la construction du canal Seine-Nord, nous avons appris à créer une plateforme pour les entreprises des Hauts-de-France qui peuvent répondre aux appels d'offres. Mmh. Et cette plateforme, donc, qui a été pour nous une formidable école, eh bien, on la crée maintenant pour d'autres sujets. Par exemple, pour le nucléaire, et par exemple, pour la vallée de la batterie. Donc, dernièrement, il y a eu une réunion sur le site Vercors où 200 entreprises sont venus pour apprendre à répondre aux appels d'offres propres à la vallée de la batterie. Donc là, on est vraiment opérationnel pour les entreprises.
La vallée de la batterie, les Hauts-de-France, la vallée du futur, moi j'ai envie de vous dire merci à vous tous, puisque vous faites avancer la société, vous faites avancer la France, et c'est ça qui nous plaît dans La France Bouge chaque soir sur Europe 1. Merci à vous Jérôme Baudel de nous avoir accueillis ce soir, c'est déjà la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes le président de Critem Deza, bravo pour ce que vous faites, parce que voilà, avec vous, on voit très loin. Merci à Fabrice Furlan, fondateur et CEO de Plume, dites-nous quand vous avez levé des fonds, hein, vous reviendrez dans La France Bouge.
Et
puis surtout pour le développement de votre entreprise, c'est pas que lever des fonds, c'est l'avenir, cette trottinette 100%, quasi 100% française. À lundi Crescenzo, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, en coach. Je rappelle que vous êtes le président de CCI France, vous serez avec nous pour la prochaine Véloc.
Je serai avec vous et je vais simplement faire écho à là-haut. Là-haut, c'est beau. Moi, merci de nous avoir reçus.
Merci à vous, merci voilà. Philippe Ourdin, président de la CCI des Hauts-de-France.
Europe 1.
La France bouge. 20h, 21h, Elisabeth Assayag.